Alors, j'ai intitulé l'intervention d'aujourd'hui « Partage, digital labor et surveillance au temps du numérique, pratique paradoxale d'une économie en mutation ». Alors, ce que je veux faire, c'est de présenter successivement les trois mots-clés du titre, là, le partage, le digital labor, la surveillance. Et puis ensuite, ma ligne, mon fil conducteur, en fait, c'est d'essayer de, d'essayer de viser à une espèce de cadrage, une totalité, je pourrais dire, dans le fond, qui serait en dessous de cela. Et mon hypothèse, c'est que c'est ce qu'on pourrait appeler le capitalisme numérique qui est en dessous de cela. Donc, c'est ma manière de parler des mutations du capitalisme. Et puis, j'ai un développement. Je me suis emporté un peu dans la préparation de la conférence d'aujourd'hui. Donc, je pourrais parler 2 heures. Mais comme je veux parler 50 minutes, j'ai demandé à Cécile, en fait, de m'avertir 10 minutes avant la fin pour que je m'en aille à ma conclusion à ce moment-là, pour que vous ayez une impression un fil conducteur qui finalement aboutit à quelque chose. Et en fait, l'aboutissement, ça va être justement de discuter de la puissance d'agir des citoyens dans un tel contexte de capitalisme numérique. Voilà. Alors, j'y vais rapido. Donc, les pratiques dites de partage, donc on parle beaucoup de sharing economy, l'économie du partage ou l'économie collaborative. Alors, en fait, ça ouvre vers, toutes les contradictions qui sont portées par ce modèle de l'économie collaborative. Alors, j'ai fait ici simplement une liste de 4 formes de pratiques qu'on pourrait associer au partage. Alors, la première pratique, c'est les pratiques ordinaires qui existent depuis toujours et qui n'ont rien à voir, en fait, avec le numérique, donc les pratiques d'échange. Donc, je vais chez mon voisin pour avoir sa tondeuse et puis où je fais de l'autostop ou... Donc là, on est déjà dans une logique de partage qui est là depuis longtemps. Ensuite, les pratiques que je pourrais appeler militantes, donc qui sont des pratiques qui datent du développement du logiciel libre, de l'encyclopédie collaborative Wikipédia, du mouvement des communs dont nous avons un représentant ici éminent. Donc, ce sont des pratiques militantes qui, effectivement, ont mis en jeu, mais j'y reviendrai peut-être, la question des droits de propriété intellectuelle, et donc l'idée de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de lutter contre cette façon d'imposer des droits de propriété intellectuelle? Donc, lutter en inventant, finalement, un nouveau type de droit alternatif, le copyleft, les licences GPL, le Creative Commons. Maintenant, troisième forme de pratique de partage. Donc là, nous sommes beaucoup plus du côté. Donc on quitte, si vous voulez, le pôle, je dirais, du don, et on s'approche du pôle marchand. Et donc avec cette troisième forme, donc j'ai appelé les stratégies opportunistes d'entreprise. Alors c'est que de plus en plus d'entreprises se sentent menacées par, finalement, toutes ces nouvelles formes d'économie collaborative. Et là, j'ai pris l'exemple de la SNCF qui, finalement, j'ai lu ça dans l'Observateur l'an dernier. Donc, la filiale de réservation Voyage SNCF propose à ses clients de louer leur logement vide sur la plateforme américaine pour financer leur voyage en offrant un aller-retour gratuit en train, donc reconnaissant implicitement que le train est trop cher pour beaucoup de gens. Enfin, bref, vous voyez, c'est comme une espèce d'enchevêtrement entre ces grandes plateformes collaboratives et des entreprises, finalement, qui se sentent menacés par certains volets, dans le fond, de leur cœur d'activité. Et puis finalement, c'est l'ubérisation, donc ce sont l'émergence d'entreprises propriétaires de plateformes d'appariement. Évidemment, Uber est emblématique de ce modèle, Airbnb, bon, etc., il y a toute une série. Et ce sont donc des plateformes qui vont capter, vont capter la valeur d'échange. Donc, si vous voulez, cette manière de faire nous fait plonger complètement dans le monde marchand. Alors, tout à l'heure, j'espère y arriver, j'ai une réflexion que je peux faire peut-être maintenant. Donc, c'est ce fameux passage à l'échelle. C'est-à-dire que vous avez une petite entreprise de partage qui, livre des repas à domicile ou enfin, bon. Et à un certain moment, donc évidemment, c'est une problématique beaucoup plus nord-américaine, là, mais ça s'en vient ici, ou c'est peut-être déjà ici, je ne sais pas, mais... Donc, vous avez une petite entreprise de partage qui, à un moment donné, veut changer d'échelle. Ça veut dire, dans le fond, maintenant, on ne veut pas atteindre juste notre marché local, on veut atteindre un marché de plus en plus, enfin, un marché national, éventuellement, pourquoi pas, global, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que la petite entreprise fait appel à du capital risque et donc, éventuellement, une inscription en bourse, si c'est assez costaud. Et là, c'est là qu'on voit que les valeurs qui étaient au départ de l'invention du service de partage, mais ces valeurs-là, qui étaient des valeurs plus proches, finalement, de ce qu'on pourrait appeler le pôle du don, en fait, donc, alors ça se substitue à ces valeurs-là, donc des valeurs strictement de profit. Et donc, on voit un passage subtil, ou peut-être plus ou moins subtil, en fait, vers le profit des grandes plateformes d'appariement, donc qui peuvent demander entre 20 et 40 % de profit sur n'importe quelle transaction. Donc, on voit une... Ah, ben c'était écrit juste en bas. Dilution précise des valeurs associées au monde non marchand. Donc, passage à l'échelle, bon, etc. Donc, je n'avais pas pensé que c'était là. Alors, maintenant, on passe à la deuxième pratique connectée. Donc, la première étant les pratiques de partage. La deuxième, ce qu'on appelle le « digital labor ». Alors, le « digital labor », ça pourrait être considéré, c'est pas mon propos maintenant, mais ça pourrait être considéré comme, un courant de recherche. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas comme... une pratique, on dit, OK, ça, c'est du digital labor, et à côté, non, ça, c'est pas du digital labor. Donc, c'est... Là, j'ai besoin d'eau. Donc, c'est... Excusez-moi. C'est donc une catégorie qui est difficile à cerner. Alors, on pourrait dire que toutes les figures hétérogènes qu'on va essayer de mettre en dessous de la catégorie « digital labor », en fait, sont difficiles à soupçonner juste sous une catégorie. Mais ça s'avère une piste féconde pour penser la mutation du travail à l'ère du capitalisme numérique et de la globalisation, au temps où l'Internet est devenu une infrastructure majeure dans l'organisation du travail. Donc, on va voir que la question de la faible ou de la non-rémunération de ceux qui sont associés au digital labor est une vraie question, finalement, éventuellement politique, et source donc de politisation. Alors, quand je dis hétérogénéité des cas de figure, donc, on peut mettre comme ça, indistinctement, en dessous de la catégorie « digital labor », des blogueurs bénévoles qui souhaitent une rémunération. Donc, on l'a vu, à un moment donné, lorsque le Huffington Post a été vendu. Donc, les blogueurs du Huffington Post ont dit, « Bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous vendez ça à une somme formidable et nous, on n'a rien. Donc, ensuite, les utilisateurs de réseaux sociaux voulant une rémunération en échange des données personnelles qu'ils transmettent aux plateformes numériques. Donc, je pense que la FING ici a fait beaucoup de dossiers sur cette question, dans le fond, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais avec mes données personnelles, est-ce que je ne peux pas exiger finalement une somme d'argent en échange, etc. Bon, c'est des. Répondant à des appels de crowdfunding qui proposent des solutions ou de l'argent à des demandeurs qui n'obéissent à peu de réglementations. Donc, en France, il existe maintenant une réglementation. Dans la plupart des pays du monde, il n'y a pas de réglementation. Donc, en d'autres mots, est-ce qu'il n'y a pas un danger de se faire avoir, finalement, en donnant, en principe, en participant, finalement, au financement d'un projet? Mais dans quelle mesure est-ce qu'il va y avoir un retour ou est-ce que c'est du don pur? Enfin, donc, il y a une question à ce niveau-là. Et un quatrième exemple de figure de digital labor, donc les contributeurs anonymes à des sites comme Mechanical Turk d'Amazon, qui touchent des sommes dérisoires. Là, je mets à titre indicatif 2-3 $ par jour, mais ça varie beaucoup. Pour remplir une grande quantité de micro-tâches dans des conditions ne répondant pas à un minimum de protection sociale. Donc, il y a des tâches très, très simples. Il y a des tâches un peu plus complexes. Vous pouvez avoir la tâche de reconnaître des images, donc voir des séries d'images et puis, dans le fond, mettre des mots-clés, etc. Faire des commentaires sur des sites. Et ensuite, il y a des tâches un peu plus complexes qui sont de fabriquer un petit vidéo pour 10 $ et ainsi de suite. Donc, je dirais que ça nous. Ce type de problématique fait partie de toute la crise du travail dans laquelle. Que nous connaissons actuellement, l'effritement du salariat. Donc, il est nécessaire de reconsidérer sociologiquement et politiquement des questions liées au travail. Donc, la question du travail, pour moi, est absolument capitale quand on pense au web, quand on pense à Internet. Au niveau de l'évolution du travail, on peut parler de précarisation, mobilité, flexibilité, dérégulation des règles et des normes. Accroissement accéléré de formes nouvelles de travail, donc le travail indépendant, de plus en plus, l'auto-entrepreneuriat, le pigisme, les contributions en ligne, dont certaines sont peu ou non rémunérées. Donc, les pratiques de digital labor mettent en scène diverses formes du travail invisible opéré par les petites mains de l'économie numérique. Donc, le digital labor ne désigne pas spécifiquement le travail impliqué dans la production des biens numériques. C'est pour ça que c'est difficile de traduire digital labor par travail numérique. Ça ne donne pas exactement ce que contient cette catégorie-là. Donc, au temps du numérique, les sphères, mais ça, c'est une réflexion un peu plus globale sur le travail, je dirais, que met en évidence la question du digital labor. Donc, au temps du numérique, les sphères habituelles du travail, bureau, usine, et de la vie quotidienne, domicile, loisirs, divertissement, en viennent à se confondre. De nouvelles formes de travail émergent de partout. Donc, surtout avec le smartphone, c'est de plus en plus difficile de désigner un espace qui serait l'espace de travail, dans le fond, le travail est un peu... Donc, avec le soutien des technologies et du smartphone, les employeurs exigent que les employés accomplissent leurs tâches dans n'importe quel lieu et à n'importe quel moment. Donc, et ça, c'est une problématique qui avait été déjà mise en évidence par mon ami Francis Jory-Guibéry sur ses études sur le portable. Donc, les technologies mobiles permettent d'attacher en permanence, 24 heures sur 24, l'employé subalterne, voir le cadre aux exigences et demandes pressantes de l'employeur. Donc, il y a une forme d'aliénation très forte ici Il y a effectivement, je pense, il commence à y avoir des moments de, enfin des mouvements, dans le fond, de résistance, finalement, à cet attachement permanent, finalement, des employés. Donc, les travailleurs invisibles opérant sur le mode de l'anonymat, donc, quand on pense à Mechanical Turk, par exemple, donc, ils sont des contributeurs anonymes, ils ont un employeur transnational anonyme, eh bien, ça représenterait, selon un auteur qui a beaucoup travaillé sur ces questions, une force internationale en 2016 évaluée à 6 millions de personnes. Alors, dernière slide sur la question de digital labor. Donc, c'est sûr que moi, il y a quelque chose qui m'intéresse au niveau du digital labor, qui est le fait que, il me semble que ça peut révéler l'émergence d'un nouveau prolétariat de l'ère numérique. Alors, il y a d'anciens travaux d'une sociologue, enfin, d'une analyste critique en 2001, Ouse, qui parle de cybertariat. On a quelqu'un qui est un Italien, Berardi, qui était associé au mouvement opéraïste. Donc, vous voyez, le mouvement opéraïste, dans le fond, déjà dans les années 60 et 70, en fait, on développait le concept de post-fordisme. Donc, le post-fordisme, c'est-à-dire, dans le fond, qu'est-ce qui se passe après le fordisme? Comment le travail s'organise? Donc, eux travaillaient sur des usines dans la région de Milan, notamment. Et alors, Berardi a introduit l'idée de cognitariat, donc qui est associé à la catégorie capitalisme cognitif. Donc, cette idée de mettre la connaissance des travailleurs au service, finalement, du capitalisme. Alors, on a chez Joël de René la notion de prolétariat, mais disons que chez Joël de René, c'est plus ambigu parce qu'il n'est pas vraiment du côté critique. Il est à la fois... Donc, en inventant prolétariat, il voulait montrer qu'il était sensible à la question des prolétaires du numérique, mais en même temps, et puis ensuite, le Conseil national du numérique a introduit l'idée de précariat, donc en insistant plus sur la dimension précaire, finalement, de ces... Alors, voilà trois questions sociologiques qu'on peut poser à propos de cette catégorie du digital labor. Donc, quelle est la nature de la valeur économique engendrée par ce travail peu ou pas rémunéré? Pouvons-nous parler d'exploitation pour qualifier les rapports sociaux entre propriétaires des plateformes et contributeurs? Est-il souhaitable de susciter une politisation de la question du digital labor? Alors, je vous lance ces questions-là. En réalité, j'ai tenté de répondre à ces questions-là dans un papier qui est en ligne. Donc, si vous tapez mon nom plus digital labor, vous devriez arriver sur ce papier-là et où là, j'introduis quelques éléments de réponse, mais je n'ai pas voulu m'étendre sur les réponses ici, mais disons que ça pourrait être l'occasion de discuter ensemble à la petite période de questions que nous avons. Donc, troisième pratique connectée, qui là, effectivement, je dirais, n'est pas dans la même logique que les deux premières. Donc, c'est-à-dire les pratiques de surveillance. Donc, de quoi s'agit-il quand on parle de surveillance à l'ère numérique ou au temps du numérique? Donc, sous-veillance entre internautes et vis-à-vis des contrôleurs des plateformes. Donc, les surveillés surveillent les surveillants. Donc, c'est ce qu'on appelle la sous-veillance. Et donc, c'est de là qu'émergent, à certains moments, des lanceurs d'alerte, en fait. Et on a vu avec Snowden que... il peut y avoir des lanceurs d'alerte au plus haut niveau, c'est-à-dire au plus haut niveau de cette structure de surveillance, en fait. Donc, il y a un Internet avant et après Snowden, en fait, après les révélations de Snowden. Alors, il y a aussi une surveillance organisationnelle et commerciale par les entreprises de l'Internet, en particulier les entreprises géantes de l'Internet, sur leurs clients. Donc, c'est tout, on voit toute l'ancrage du modèle économique, finalement, de l'économie numérique, en fait, qui part de là, en fait. Ensuite, avec Snowden, on a vu qu'il y avait une surveillance étatique de masse. Donc, ça, c'est important. Donc, une surveillance étatique de masse exercée sur les bases de données de ces entreprises et sur la vie privée des individus. En d'autres mots, on était déjà surveillés par les organisations, et là, on s'aperçoit que toutes ces organisations-là sont surveillées par notamment les services secrets américains, mais on peut penser qu'il y a un certain nombre d'autres pays qui sont de la partie également. Et on a évidemment une surveillance internationale, comme on dit des fois « business intelligence », donc l'espionnage d'entreprise, et « hacking entre États ». On l'a vu récemment, ça a été sur la scène publique, et « hacking entre organisations ». Donc, on est sous l'emprise d'un véritable empire de la surveillance, pour parler comme Ramonet, généralisation des pratiques et dispositifs de surveillance numérique de masse. Donc, Ramonet insiste beaucoup sur l'idée de masse, en fait. Donc, c'est indistinct, ça rejoint tout le monde. Et dans un des deux films qui ont été faits sur Snowden, on voit à un moment donné, bon, c'est de la fiction, mais il semble que ça soit appuyé sur de la vraie documentation. Donc, il y a quelqu'un qui entre dans une des... Ah, le son, oui. Okay. Il y a quelqu'un qui entre dans une des salles de ces endroits secrets, dans le fond, du Deep State, et j'y reviendrai, et qui, à un moment donné, fait une espèce d'exploration. Il dit, OK, il donne le nom, donne un nom. Et le type, et puis finalement, il sort un dossier absolument incroyable sur l'individu. Donc, on est dans une... Alors là, on pourrait parler d'industrialisation de la surveillance. Donc, c'est tellement automatisé. Et puis, une internationalisation de la surveillance. Donc, alors c'est ça. Donc, Snowden, j'ai dit un peu ce que je voulais sur Snowden. Donc, alors, ce que la surveillance évoque, finalement, pour moi, c'est ma dernière diapo sur la pratique connectée de surveillance. Ce que ça évoque pour moi, c'est que la fameuse promesse de la société en réseau se mue en société de contrôle et de surveillance. Donc c'est comme si le... Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Donc, on est devant l'intrusion des États et des grandes corporations dans la vie privée des personnes. Elles se consacre à la collecte de données personnelles nominatives au nom de la nécessité d'un accroissement de la sécurité, guerre contre le terrorisme, etc. Donc, on est dans une société de connectivité, finalement, où l'interaction entre individus, États, grandes corporations bat son plein. Donc, on est, je dirais, dans une dialectique entre la peur et la confiance. Et dans le fond, on est toujours dans une espèce de va-et-vient successif entre ces deux pôles. Nous pourrons y revenir. Alors maintenant, je passe comme à la deuxième partie de mon exposé, qui est de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait expliquer l'ensemble de ces pratiques connectées? Donc, ce serait quoi la totalité qui est en dessous et qui explique... Donc, je dirais les mutations du capitalisme à l'ère numérique. Donc, il y a toutes sortes de labels. Donc, je vais revenir un petit peu pour m'expliquer un petit peu sur le sens de ces différents labels. Donc, le post-fordisme, le capitalisme cognitif, financier. Je vais exclure le capitalisme financier de mes propos. Parce que c'est un autre volet complètement, mais qui a complètement des liaisons. Le financier n'existerait pas s'il n'y avait pas les technologies de passage, de connectivité au niveau des échanges de données. Donc, capitalisme informationnel, capitalisme numérique. Alors, il y avait, comment s'appelle-t-il, Schiller, donc Dan Schiller, qui avait écrit un livre sur « Digital Capitalism » en 2000. Donc, peut-être qu'on pourrait dire que c'est l'ancêtre un peu de celui qui a lancé le concept de capitalisme numérique. Et aussi, on est dans une espèce de popularisation avec l'ubérisation, donc, de cette idée d'économie collaborative. Alors, là, il y a un ouvrage de Veltz, je ne me souviens plus son prénom, là, mais il a intitulé son ouvrage qui vient de paraître au Seuil, « La société hyper-industrielle ». Et moi, je, alors évidemment, qui l'oppose à l'idée de société post-industrielle. Donc, j'ai mentionné ici le livre de Touraine que j'avais lu en 69 sur la société post-industrielle. Donc Touraine était vraiment très, très, comment dire, d'avant-garde en introduisant la notion de société post-industrielle à ce moment-là. Et je me souviens que j'avais dirigé un numéro de la revue Sociologie et Société dans les années 70 sur l'informatisation. Et un de mes auteurs avait fait tout son article sur post versus hyper. Alors, je suis assez étonné de voir qu'en 2017, on revient avec ce débat-là. Je pensais que c'était réglé, mais c'est peut-être juste aussi une question de, comment dire, de question sémantique, là, tu sais. Mais c'est vrai qu'on pourrait prendre du temps à réfléchir sur post et hyper, dans le fond. Là, parce que dans le post, il y a comme la prise en compte de ce qu'on qualifie de post, dans le fond, la post-modernité ou la post... post-structuralisme, etc. Donc, il y a comme une prise en compte de ce qu'on désigne, mais en même temps, une volonté, finalement, de dépasser cette première catégorie. Et donc, ça donne, au niveau post-industriel ou hyper-industriel, moi, je dirais, c'est comme si, quand on dit post-industriel, on dit, OK, on est passé à autre chose. Et quand on dit qu'on est dans l'hyper-industriel, c'est comme si on dirait... On est toujours dans le même, mais de façon plus intense, plus accélérée à cause du numérique, etc. Donc, en tout cas, c'est une source. On pourra revenir à ces questions-là si vous êtes intéressé. Et donc, dans ce mouvement de mutation du capitalisme, je dirais qu'une des clés pour comprendre l'économie numérique, c'est les données sur les usages. Donc, les données sur les usages qui sont... source de la valeur économique. Donc, le numérique accélère la captation de la valeur économique sous la forme de données d'usage. Et ça va, évidemment, ça va être absolument fondamental. Alors, si j'essaie de me... Donc, pour les quelques prochains diapos, je vais essayer de m'attarder... Ah oui, j'ai oublié le micro, là. Je vais essayer de m'attarder justement à ces façons de désigner ces mutations-là. Donc, on a, je dirais, la catégorie pionnière, finalement, élaborée par Touraine en 69, société post-industrielle, évidemment, qui rejoint complètement les travaux de Daniel Bell. Donc, Daniel Bell va faire quelques ouvrages dans les années 70 là-dessus, mais à ce moment-là, il s'agit... ce que ces auteurs mettent en évidence, c'est... une société de service, une économie de la connaissance. Donc, toute l'importance de la connaissance, l'importance des services, et même maintenant, et même Vels, qui parle de société hyper-industrielle, il parle finalement d'une industrialisation des services. Donc, on est simplement... Là, il garde le concept d'industrialisation. Évidemment, on a parlé de néolibéralisme, mondialisation, financiarisation. Si je reviens à mes catégories plus proches de l'économie numérique ou du capitalisme numérique. On a le post-fordisme, donc qui a été inventé par les Italiens autonomistes ou qu'on dit des fois le mouvement opéraïste, en fait. Donc, pour essayer de qualifier, de caractériser finalement cette phase du capitalisme dans laquelle... les technologies de l'information et de la communication en viennent à jouer un rôle important et où là, il y a des connexions qui se font entre, je dirais, le pôle de la conception et, ultimement, le pôle de la consommation en passant par la production, etc. Donc, il y a vraiment une connexion qu'on n'avait jamais connue avant. Il y en a qui ont des répercussions sur la nature des tâches qui sont réalisées dans un tel système. Alors, ça a débouché sur la notion de capitalisme cognitif. Alors, je vais tantôt m'attarder une minute sur le capitalisme cognitif. Il y a aussi quelque chose qui n'a pas fait long feu, mais qui est je pense que c'est Jodi, son prénom, une anglo-saxonne qui a parlé de « communicative capitalism ». Donc, c'est-à-dire, dans le fond, un capitalisme qui est qui est assez proche, finalement, de ce que Mouillé-Boutan appelle le capitalisme cognitif, en fait. Et là, on a une nouvelle expression, le « platform capitalism ». Donc, on parlait d'économie des plateformes, mais non, on commence à parler du capitalisme des plateformes. Et là, pour revenir finalement à, je dirais, une catégorie que j'ai utilisée énormément, que je continue à utiliser énormément, donc capitalisme informationnel. Donc, la première fois que j'ai vu la notion de capitalisme informationnel, c'était dans le premier tome de l'ouvrage de Castel, là, dans le fond. Et puis, ça a été beaucoup, je dirais, éclairé par Philippe Aigrin, hein, ensuite, sur... Alors, je lisais un article récemment de Sébastien Broca où il associait finalement la question de, je dirais, de l'invention du logiciel libre, disons, à cette période où on marchandisait l'information, où on contestait la marchandisation de l'information, donc capitalisme informationnel. Alors, capitalisme numérique, donc, c'est devenu, au moment où on se parle, parce que tout ça est mouvant, mais moi, je dirais que c'est un peu ma grande catégorie, là, tu sais. C'est comme si je passais de l'utilisation d'un capitalisme informationnel à plus un capitalisme numérique. Le capitalisme informationnel étant comme un stade, je dirais, de l'instauration du capitalisme numérique. Alors, il y a cette notion de prosumer capitalisme. Donc, le prosumer, c'est le producteur-consommateur. Donc, on met les deux. Donc, le producteur est à la fois un consommateur. Le consommateur est aussi un producteur de contenu. On retrouve l'expression « producer » aussi chez Axel Burns. Donc, « producer », donc l'usager est en même temps un producteur, bon, etc. Donc, c'est un consommateur qui est engagé comme acteur, moi, je dirais comme contributeur actif, en fait, dans le mode de production des biens, qu'ils soient matériels ou immatériels. Alors, on voit que la nature de la métaphore choisie pour qualifier le capitalisme, on voit que cette métaphore-là révèle l'orientation de l'observateur, une orientation analytique, politique, idéologique. Alors, là, je vais simplement mettre le focus sur quatre métaphores. Donc, capitalisme numérique. Alors, je dirais que le capitalisme numérique met en évidence le rôle névralgique de la connectivité. Donc, machine-to-machine communication, parce que dans le fond, quand on a inventé la cybernétique, on avait fait une typologie, tu sais, humain-humain, humain-machine, machine-machine. Mais en réalité, la zone machine-machine était là, disons, elle était là, mais elle n'avait pas été exploitée beaucoup, mais elle avait été exploitée à travers des inventions de petits robots. Mais je dirais que là, on est en plein dans la communication machine-to-machine. Donc, on est de plus en plus dans une société où des machines communiquent entre elles à notre propos et à notre insu. Donc, si vous voulez, c'est ce fameux captage de données. Donc, c'est pour ça que les data, j'ai parlé comme un français, les data, les données. Donc, les données sont, avec la connectivité, sont comme les deux mamelles, si on veut, du capitalisme numérique, donc qui entraîne une réorganisation de l'économie, donc rôle majeur des algorithmes, des plateformes et des sociétés, globalisation, financiarisation qu'on connaissait déjà. Avec le capitalisme informationnel, donc évidemment, on pourrait s'étendre très longtemps à partir de Castel, mais disons que chez Aigrin, dans son fameux volume « Cause commune », on retrouve une critique de la marchandisation de l'information. Et on pourrait dire que les logiciels libres et les outils juridiques originaux ont été une forme de résistance à cette marchandisation de l'information. Et on retrouve dans un article récent de Sébastien Broca l'idée qu'il y a aussi une récupération marchande des logiciels libres par l'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je me souviens qu'une fois, j'avais été faire une visite dans une entreprise de... C'était sur la Côte d'Azur, c'était bien agréable, mais je ne me souviens plus de ce qu'ils fabriquaient exactement. Mais enfin, bref, ils fabriquaient des logiciels pour arriver à fabriquer ce qu'ils... Et puis, je m'intéressais aux logiciels libres à l'époque et je constatais qu'ils étaient tous en logiciel libre. C'était une entreprise totalement capitaliste, etc. Et là, j'ai dit, mais vous faites tout en logiciel libre, tu sais. Oui, mais il dit, la dernière étape, on met en logiciel propriétaire. Donc, on était déjà dans un phénomène de récupération de... Et ça... Enfin, parce qu'il y a aussi toute la question de l'open source, dans le fond, comme exemple de ces enchevêtrements entre le monde marchand et le monde du libre. Et donc, dans le capitalisme cognitif, alors le capitalisme cognitif, insiste davantage sur l'idée d'accumulation de connaissances. Donc, donc la dimension cognitive, élément clé dans la création de la valeur, et renforcement des dispositifs de gestion des droits de propriété intellectuelle. Donc, évidemment, qui va... Alors, on voit que toutes ces catégories-là s'enchevêtent à certains moments. Et puis, au niveau du prosumer capitalisme, là, je me suis basé sur un livre récent dont j'ai fait le compte-rendu dans la revue Réseau, là, qui s'appelle justement « Digital Labor et Prosumer Capitalisme ». Et puis, donc, eux, comme ils ont, disons, associé les deux notions, ils insistent beaucoup sur les mutations du travail et sur la forme digitale, bon, etc. Mais c'est sûr que, je dirais que, quand on parle de prosumer capitalisme, je dirais que le fil conducteur, là, c'est vraiment l'idée de dire, on met le contributeur, dans le fond, on le met au service du mode de production. Dans le fond, donc, je suis un consommateur, mais je suis en même temps, je participe en même temps par la captation de mes traces à l'idée de... de production numérique. Et donc, dernière diapo sur la question de l'imitation du capitalisme, c'est donc, pour résumer, c'est qu'on est face, donc, dans le fond, à une réorganisation du travail et de l'entreprise, à une ubérisation qui, finalement, nous invite à penser de nouvelles formes de travail. Et le digital labor nous amène à réfléchir à l'avènement, peut-être, d'un nouveau prolétariat à l'ère du numérique. Alors là, j'ai une section sur l'emprise structurelle du numérique. Je peux peut-être passer vite là-dessus parce que c'est une diapo sur laquelle j'avais réfléchi, mais enfin, qui n'était pas exactement comme celle-là, mais c'était dans le même sens lors de ma conférence. Mais c'est que pour moi, si vous voulez, la notion d'emprise structurelle du numérique est importante pour penser tout ce qui nous anime en termes de transformation de l'économie. Mais ici, c'était simplement pour mettre en relief une espèce d'aller-retour entre ce que permet le numérique, c'est-à-dire une concentration de pouvoir, donc la captation des données d'usage dont je parlais tantôt, mais ça devient finalement le capital finalement de ces grandes entreprises du GAFAM, donc moi j'ai ajouté un M, donc GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis Microsoft. Hein. Mais j'ai entendu des nouvelles formules où on intègre Netflix, etc. Enfin, bref. Et puis, de l'autre côté, donc, l'économie du partage avec toutes ces contradictions dont j'ai déjà parlé. Et puis, mais en même temps, finalement, le mouvement des communs. Donc, on est dans un affrontement complexe, en fait, entre une logique de marchandisation et une logique de partage. C'est une logique qui est asymétrique. Donc, on voit bien que les grands oligopoles, les grands monopoles ont un pouvoir énorme par rapport aux petits, finalement, aux acteurs, finalement, des communs, entre autres, etc. Mais il reste qu'il faut regarder, finalement, ce qui se passe au niveau des mouvements des communs. Mais là, je parle sous le contrôle d'Hervé. Donc, il faut quand même voir... mais j'y reviendrai tantôt, voir toute cette potentialité, finalement, révolutionnaire. Suis-je déjà rendu à moins 10 minutes? Hein? Oui? Bon. Alors, si je suis rendu à moins 10 minutes, donc je vais faire un grand saut Parce que ça, c'est un thème, l'injonction à la participation, sur lequel j'ai fait plusieurs conférences. Donc, je voulais peut-être simplement indiquer que cette idée de participation, finalement, est également incluse dans ce basculement de l'économie. Et je formulais l'hypothèse, effectivement, que ce sont les formes contemporaines du capitalisme numérique qui construisent cette totalité qui est en dessous, finalement, des pratiques que j'ai mis en évidence et que, dans le fond, le travail analytique, ça consiste finalement à, je dirais, mettre en dialectique une analyse du fonctionnement du capitalisme numérique et une saisie du rôle primordial d'une économie des communs, d'une culture de la participation, donc qui participe à la définition d'une alternative au capitalisme. Alors, donc, je vais passer sur... Alors, évidemment, j'avais une section sur l'avènement d'une société de contrôle et de... Mais je voulais comme me concentrer sur mes dernières deux diapos dans les dernières 10 minutes. C'est-à-dire que finalement... Donc, voyez-vous le tableau? C'est que là, j'ai décrit 3 types de pratiques connectées. J'ai essayé de mettre en évidence le contexte d'un basculement de l'économie qui explique finalement comment toutes ces pratiques connectées sont quand même des pratiques assez contradictoires. Dans le fond, je vise finalement l'émancipation et puis je me retrouve à me faire jouer par le système. Où le système met en place des trucs et puis finalement il y a des brèches et puis finalement il peut y avoir finalement de la subversion qui émerge aussi. Je vais revenir là-dessus. Et donc je voulais en conclusion poser la question, qui est une question qui m'obsède depuis plusieurs années, donc ça serait mon leitmotiv. À chaque fois que vous m'entendez, attendez-vous à ce que je parle éventuellement de la puissance d'agir citoyenne, en fait. Donc, je me dis, dans le fond, comment est-ce que la puissance d'agir citoyenne peut encore aujourd'hui se manifester dans une telle société de contrôle et de surveillance? Alors, bien sûr, j'ai sauté mon exposé sur la société de contrôle et de surveillance, mais je pense que j'en ai dit assez sur la surveillance pour qu'on voit un peu ce que je veux dire, en fait, par société de contrôle. Alors, c'est là que j'ai introduit la notion de subjectivité, c'est-à-dire, dans le fond... Comme disait Benveniste, il définissait la subjectivité comme étant la capacité d'un locuteur à se poser comme sujet. Donc, si vous voulez, la subjectivité, la capacité d'un locuteur à se poser comme sujet. Et donc, un certain nombre d'individus dans le monde d'aujourd'hui, font preuve d'une capacité d'expression de leur être en tant que sujet, et donc ce qu'on pourrait appeler le rôle dynamique des subjectivités dans un capitalisme informationnel. Donc, on a vu, en mettant en évidence le modèle économique du capitalisme numérique, on a vu que il avait besoin de capter et de monétiser, finalement, la force expressive des subjectivités. Donc, si vous voulez, les données sur les usages, dont je parlais tantôt, ou on pourrait dire les productions expressives des subjectivités, bien, c'est... Le capitalisme a besoin de ça pour créer de la valeur. Donc, on voit... Là, ça pose une première brique, je ne sais pas si c'est le mot brique, enfin bon... Une première boule de billard. T'sais. Et puis, deuxièmement, on est dans une ère de la subjectivité débridée. C'est-à-dire que quand, mettons, ma collègue Laurence Allard parle d'expressivité, des subjectivités, tout ça, au moment où elle a écrit son papier, etc., je dirais que ce monde débridé n'était pas encore là. C'est-à-dire, maintenant, on regarde, par exemple, les commentaires qui sont faits suite à des articles en ligne. c'est des injures, c'est des trucs racistes, en fait. Donc, c'est quelque chose de... Alors, il y a des faussetés. Donc, l'Internet devient comme source de rumeurs et on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, etc. Et donc, il y a des désinformations et au déjeuner, on parlait de réinformation. De réinformation. Donc ça, c'est comme les internautes qui font de la désinformation, mais qui présentent leur action de désinformation comme quelque chose de positif. Et donc, ils disent, non, moi, je fais de la réinformation, je ne fais pas de la désinformation, je fais de la... Bon, donc on est dans un monde qui résiste de plus en plus au niveau de l'opinion publique à ce que les journalistes américains appellent le « fact-checking ». Donc, c'est-à-dire qu'il y a une résistance au fact-checking. Donc, on dit, voici, cela est faux. Et puis, finalement, la vie continue. Donc, on voit ça avec Trump de plus en plus. Hier, le ministre de la Justice, finalement, on met en évidence que le ministre de la Justice a menti devant un jury, ce qui, jusqu'à très, très peu de temps, entraînait la démission immédiate, finalement, du personnage politique. Là, Trump dit, bon, c'est pas si grave que ça. Et lui-même dit, non, c'est pas... Alors, c'est comme si le statut de la vérité, finalement, est comme ébranlé, finalement, dans ce contexte de subjectivité débridée. Et puis, en même temps, il y a aussi une dimension d'une potentialité subversive dans toutes ces expressions de subjectivité. Évidemment, il y a eu des moments phares comme à l'occasion du printemps arabe. On appelait ça le printemps érable chez nous au Québec. Donc, si vous voulez, c'est toujours là. Mais évidemment, c'est pas... Par rapport à la puissance des géants de l'Internet, évidemment, là, on est devant des potentialités subversives, je dirais, qui sont limitées, en fait. Donc, on est... alors là, ici, c'est des éléments de conclusion. Je pourrais développer comme chacun de ces éléments-là. Mais, donc, évidemment, j'ai un de mes penseurs fétiches, en fait, c'est André Gorz. Alors, Gorz a parlé à un moment donné je pense qu'il appelait ça l'utopie non marchande. Donc, l'idée d'un monde qui serait en dehors de la sphère marchande. Et donc, lui, il aspirait à ça. Dans le fond, il aspirait, vers la fin de sa vie, à l'idée qu'il existe un monde non marchand. Mais évidemment, j'ai déjà développé cette idée dans d'autres conférences et on m'est tombé dessus en disant mais t'es où, là? T'es déconnecté, t'es comme Fillon, t'es déconnecté complètement. Alors, donc, si vous voulez, j'ai complexifié un peu ma pensée en disant évidemment, on pourrait peut-être tenter de composer avec le marché, mais pas être complètement dans le marché. Donc, en tout cas, il y a une réflexion à faire, je pense, surtout si on pense à ce que peut-être à un moment donné notre sphère économique va plus ou moins craquer, en fait. Donc, c'est important qu'il y ait des expérimentations qui commencent à se développer pour, effectivement, inventer l'avenir, en fait, qui serait un avenir, je dirais, où le monde marchand serait hybridé, finalement, avec un monde... qui me rappelle les contre-cultures dans lesquelles j'ai été dans les années 60, 70, en fait. Alors, un autre élément, dans le fond, de conclusion, c'est qu'avec l'avènement, la dissémination des technologies invisibles, donc tous ces capteurs qui sont de plus en plus présents, l'Internet des objets, etc., ça nous oblige à reconsidérer la problématique de l'appropriation sociale des technologies. Alors, en réalité, moi, ça a été un autre mot-clé qui m'a habité tout le long de ma vie de chercheur, dans le fond, de réfléchir sur l'appropriation des technologies. J'avais décidé à l'époque d'appeler ça comme ça, là, avec quelques autres. Après, j'ai dit appropriation personnelle, sociale, bon, etc. Donc, c'est l'idée de dire, OK, on va prendre la maîtrise, on va prendre le contrôle sur les technologies qui nous sont imposées, et puis on va les revirer, on va les faire basculer, finalement, pour des fins citoyennes. Et puis, donc, toute ma vie, j'ai développé un discours de plus en plus sophistiqué sur les conditions à remplir pour avoir une appropriation, etc. Et là, je me sens actuellement dans un cul-de-sac au niveau de ma réflexion sur l'appropriation. Je trouve qu'on est tellement dans un monde où les technologies sont rendues invisibles qu'il faut réfléchir à de nouvelles manières de penser l'appropriation. Bon, évidemment, il y a une piste, mais qui est tout de suite contredite, mais qui était la piste du code, dans le fond, apprendre le code, donc apprendre des trucs de fond. Mais en même temps, bon, tous les informaticiens nous disent, bon, mais c'est bon, on va pas montrer le code d'informatique aux enfants, c'est comme, c'est compliqué le code, c'est comme, ça prend plusieurs années, en fait. Donc, mais évidemment, il reste l'éducation. Des fois, je fais des conférences sur l'éducation critique au monde numérique, donc c'est certain que expliquer aux enfants et à tout le monde, en fait, comment fonctionne tout ce monde-là, tout ce monde numérique-là. Donc, c'est certain que ça participe d'une certaine forme d'appropriation préliminaire, finalement, des technologies. Mais vous voyez qu'il y a une réflexion de fond à faire sur la question de l'appropriation sociale et des technologies. Et donc, une autre piste de réflexion, pour conclure, c'est quoi les compétences qu'il faut acquérir pour savoir et pouvoir créer des brèches dans le développement du capitalisme numérique? C'est-à-dire que quand on prend, par exemple, l'exemple de Snowden, bien, on s'aperçoit qu'il faut un très haut niveau de compétences techniques pour pouvoir, finalement, lancer des alertes au bon niveau. Donc, la question du hacking se pose comme quelque chose qui est intéressant à penser. Donc, je pense que c'est intéressant à penser, et évidemment à penser les compétences pour pouvoir hacker, éventuellement, etc. Bon. Donc, culture de la contribution et du partage, mouvement des communs, Hervé pourra nous en parler. Et je dirais, pour terminer, donc, pour rendre très, très contemporain ma dernière réflexion, quelle capacité d'agir et de lutter peut-on développer dans un monde de post-vérité? Donc, post-truth, post-vérité, qui résiste à la réfutation. J'ai participé à un colloque à Paris la semaine dernière sur la post-vérité. Et Gauchet faisait une intervention. Et à un moment donné, il a dit la post-vérité, c'est ce qui résiste à la réfutation. Et donc, on est dans un monde où des arguments rationnels, fondés, argumentés, certifiés, ne tiennent plus la route devant des faussetés. Donc, il y avait quelques temps, quelqu'un qui pointait le fait que les tweets qui contenaient des faussetés étaient plus retweetés que les tweets qui contenaient des vérités. Ben, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup.
Pour ton intervention complète et riche. Est-ce que vous avez des questions?
Non, mais en tant qu'homonyme du panneau, on va se comprendre. Je me demandais s'il y avait une différence dans toutes ces constatations. Est-ce qu'on peut déjà dessiner des différences entre les différentes cultures, disons, à se dire que ça? Est-ce que c'est plutôt nord-américain ou occidental? Est-ce que ces pratiques-là sont des appropriations différentes peut-être en Amérique du Sud, ou est-ce qu'il y a des études qui sont faites qui permettent de tout confirmer ou au contraire de nuancer ces...
Personnellement, je n'ai pas fait d'études comparatives, donc je ne pourrais pas. Mais c'est certain que ma réflexion est beaucoup ancrée dans l'Amérique du Nord. Et donc évidemment, quand je parle de post-vérité, on est plus dans l'Amérique du Nord. Mais évidemment, je vis, un certain nombre de mois à Paris par année. Donc, je me sens très en contact aussi avec la France. Mais... Et puis, il y a comme Vassili qui travaille au Brésil, en fait. Peut-être qu'il faudrait répondre collectivement, en fait, à cette question. Ah, peut-être qu'il y a un début de réponse ici, à côté de... Non, c'est autre chose.
Non, mais là-dessus, il y a un truc très important, si vous regardez ce qui se passe en Chine. Moi, je pense qu'il faut arrêter de parler des GAFA, et ce que nous connaissons, et parler de Tencent, Baidu, Alibaba, qui sont tout aussi importants et qui ne fonctionnent pas tout à fait sur le même régime. C'est-à-dire que les GAFA, en fait, viennent du monde de l'ordinateur. On avait des ordinateurs qui sont devenus plus petits en devenant des mobiles, alors que les nouveaux géants qui arrivent en Chine, ils partent du mobile. Comme nous, on part du navigateur, on part du web. C'est-à-dire on parle du navigateur web comme élément central d'interaction pour faire du commerce, pour faire du média social, pour faire de l'accès à l'information. Eux, ils partent directement du mobile, donc de la messagerie. Et c'est autour de la messagerie, et on voit l'évolution aujourd'hui de WhatsApp, par exemple, c'est vers une messagerie qui intègre du son, de la vidéo, un média social, la capacité de payer, enfin, tous ces trucs-là. Donc, je crois qu'il faut que... Je pense que tout ce que tu as dit peut s'appliquer là-bas sous des formes complètement différentes. C'est-à-dire qu'on a un nouveau capitalisme chinois très très fort, dans lequel le capitalisme informationnel ou numérique, comme tu dis, a une place importante, mais où on s'aperçoit qu'il est plus fragile parce qu'il est soumis aux décisions d'État. Alors qu'en Occident, c'est les États qui sont soumis aux décisions de Twitter, Facebook, Google et compagnie. Là, c'est une vraie...
Mais quand tu dis messagerie, non?
C'est la messagerie WeChat ou c'est la messagerie de Alibaba. C'est-à-dire, comme nous, on fait des SMS.
Hein, OK, des messageries instantanées. On n'est pas dans la messagerie voilà. Mail. Là, c'est plus.
Moi, j'ai une petite question complémentaire.
Est-ce qu'il y avait une autre question?
Non, mais c'était complémentaire. Oui.
Si c'est complémentaire à ce thème,
d'une certaine façon, c'est complémentaire. C'est que dans ce tableau, il y a un grand absent que vient d'évoquer Hervé, c'est l'État. Et en fait, je me demande comment tu l'intègres dans cette réflexion, parce qu'on nous a vendu l'Internet comme un espace de liberté, mais de quelle liberté s'agit-il et comment est-ce qu'on réduit ça ou pas?
Bien, c'est une bonne question. C'est comme si, parce que c'est à l'occasion, on m'a fait ce genre de remarque-là à la fin d'une conférence. Là, et puis, on dirait que j'ai... je ne sais pas si c'est dû à ma formation initiale. Je me suis mis à m'intéresser, dans le fond. Quand je me suis mis à m'intéresser aux questions de l'informatique, en fait... C'était avant, je m'intéressais aux médias, à la télévision, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai eu une commande du ministère de la Communication et de la Culture du Québec pour produire un rapport sur une prospective des médias. Quelle serait la vie quotidienne et les médias en l'an, tu sais, comme 20 ans après mon rapport, ça fait comme maintenant, tu sais. Et puis, c'était un moment où on ne parlait pas d'Internet. Bien, je me demande même si ça existait. Peut-être que ça existait un petit peu dans les officines aux États-Unis, tu sais, et je me souviens que ce qui est sorti, c'était, bon, un concept qui est ressorti, qui était celui d'informatisation. Là, il y avait eu... le rapport de 75, je pense, sur l'informatisation, Nora Mink, là, tu sais. Donc, cette idée, dans le fond, d'une nouvelle façon, dans le fond, que l'appareil de production soit comme traversé part comme une nouvelle substance là, qui serait comme l'information, etc. Et puis, dans le fond, notre rapport de prospective s'est orienté vers qu'est-ce que l'information va faire aux médias. Et donc, on était assez pionniers à ce moment-là. On ne parlait pas beaucoup de ça. Alors que maintenant, c'est un truc qui... Personne ne ferait ça, c'est tellement évident. En fait, c'est comme... Mais à ce moment-là... Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, je dirais, à la place de l'informatique dans la vie quotidienne, qui était sur le point d'advenir. Et puis, comme je m'étais intéressé auparavant aux questions de la réception de la télévision, tu sais, dans le fond, donc j'étais beaucoup intéressé aux individus. Alors là, c'est comme si les individus sont devenus des usagers de l'informatique. Et puis, je me souviens, j'étais influencé à l'époque par Certeau, qui opposait les tactiques des petits versus les stratégies des grands, tu sais. Et des grands de l'industrie industrielle, etc. Et en fait, à un moment donné, c'est comme si je me suis centré sur cela. Je me suis centré sur, dans le fond, la résistance des petits. Tu sais, comment imaginer une résistance des petits dans un contexte où s'installait l'informatisation? Mais c'est vrai que je pense que je n'ai vu que la dimension entreprise, tu vois. Et c'est comme si l'État, bien sûr, je parlais certainement de l'État, mais c'était plus comme l'État qui régule, en fait, l'État qui aide l'industrie. Tu sais, donc, j'ai pas... Et c'est vrai qu'en France, la question de l'État, mais c'est absolument capital ici. Tu sais, c'est comme on ne peut rien faire sans l'État. L'État est responsable de tout. C'est comme... Bon, mais enfin, je ne suis pas en train de me justifier. Je trouve que c'est une vraie erreur que j'ai faite, une erreur épistémologique, de ne pas prendre suffisamment en compte la question de l'État, surtout qu'en infocom ou en sociologie, il y en a d'autres qui travaillent seulement sur l'État. Il y a eu une espèce de division, à un moment donné, entre ceux qui faisaient la sociologie des usages et ceux qui s'occupaient des vraies choses, c'est-à-dire les acteurs industriels, l'État, etc. Et bon, maintenant, c'est plus confus. Parce que j'ai vu des sociologues, des acteurs industriels prétendre en colloque qu'ils avaient fait toute leur vie de la sociologie des usages. Tu sais, donc c'est parce qu'on a vu que c'était porteur en termes de subventions, en fait, d'action des usages, surtout avec les données d'usage maintenant qui sont le carburant, en fait. Mais enfin, bref, ce serait ma réponse partielle et insatisfaisante. Philippe? Non, mais il y a toujours madame. Oui, c'est ça. Non, il y a madame. Oui, c'est ça. Oui.
C'est vrai que les choses sont vraiment emboîtées. Vassili, est-ce que tu as répondu sur la question de la sociologie des usages? Ce que tu sembles suggérer à la fin de ton exposé, c'est que face à ce type de technologie-là, de technologie invisible, c'est comme si cette sociologie des usages, avec sa dimension normative, c'est-à-dire les détournements et les braconnages, les formes de résistance, comme si elle était en quelque sorte obsolète. Alors ça, c'est une affirmation forte, parce que d'un certain point de vue, la sociologie de la communication, elle a échappé aux thématiques de la neutralité des dispositifs ou alors au discours critique à victimaire, quoi, qui montrait que les médias, en quelque sorte, venaient totalement écraser ceux qui recevaient ces messages. Si face à ces monstres-là, technologiques ou peut-être économiques, ou aussi... l'hubris aussi des puissances des États, et notamment des puissances militaires. Parce qu'effectivement, les changements sont tels que mettre l'accent aujourd'hui sur l'étude des usages, pas d'un point de vue marketing, d'un point de vue au contraire de capacité de résistance, est-ce que c'est en partie obsolète ou est-ce que ça n'est pas à la fois d'un point de vue épistémologique, on peut dire, et d'un point de vue normatif. Jusqu'où tu vas dans cette idée que ça remet en cause ce qui te paraît assez fondamental, c'est-à-dire ce thème de l'appropriation sociale et
Mais c'est-à-dire que je pense pas que c'est totalement obsolète, la question de la sociologie des usages. Mais c'est juste que je pense qu'elle demande... C'est comique, parce que je reprends le titre d'un article que j'avais fait il y a très longtemps, « Reconsidérer la sociologie des usages ». C'est comme... c'est comme si, mais là, je le redirai à nouveau, mais pas dans le même sens, tu sais, c'est-à-dire que c'est comme si, je pense qu'il faut s'intéresser au détournement, il faut s'intéresser à la résistance, mais c'est comme si on est dans un monde qui a basculé. Donc le détournement appelle davantage aux pratiques de hacking et à ce moment-là, à la nature des pratiques de hacking. Je constate... Bon, là, c'est une première piste, mais il y a tout le mouvement des communs qui, effectivement, porte pour moi actuellement l'idée d'un projet qui serait une alternative au monde marchand tel qu'on le connaît. Tu sais, donc je trouve qu'il y a des éléments là-dedans qui nous font réfléchir à de nouvelles façons de gouverner, de nouvelles façons de gérer des biens qui sont partagés, finalement, donc de nouvelles manières, des nouveaux modèles de gouvernance, finalement. Donc ça, c'est une autre piste. Tu sais, il y a la piste du détournement, il y a la piste des nouveaux modèles de gouvernance. Tu sais, c'est comme si on dirait qu'il y a quelque chose de l'ordre des contre-cultures que moi j'ai vécu, en tout cas, donc j'ai participé à la création d'une commune en 73 qui a duré très longtemps. Il y a eu, je pense, 25 enfants qui sont nés sur notre commune. Et donc, ça a été très important. Il y a 3-4 maisons qui sont construites aussi, tu vois. Et donc, il y avait des valeurs là, il y avait un partage de valeurs qui, à un moment donné, est disparu avec, je dirais, les années 80, la rupture habituelle, enfin, qu'on dit habituellement. Mais on dirait que je sens confusément qu'il y a certaines de ces valeurs de partage de l'époque, tu vois, qui perdurent encore, tu sais, et pour moi, c'est très intéressant parce que ça permet finalement peut-être la possibilité de nouvelles expérimentations sociales qui sont, comme je le disais tantôt, des expérimentations qui peuvent nous permettre d'essayer de penser la gouvernance des ressources autrement et que ça va peut-être devenir nécessaire parce que moi, je ne veux pas être prophète de malheur, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose qui explose. Tu sais, et pas la communication dans ce cas-là, c'est vraiment le... Tu sais, dans le fond, il y a quelque chose là, qui est sur le point, et je ne sais pas dans quelle mesure. Tu sais, donc on va exister encore après. Mettons que c'est l'explosion du capitalisme. Bien, on va exister encore, nous. Tu sais, c'est comme... Alors là, il va falloir qu'on se réorganise, là, qu'on organise notre vie autrement, selon de nouveaux principes de gestion, des nouvelles valeurs plutôt que celles du profit, etc. Tu sais, donc je trouve que... Ça, c'est intéressant. Peut-être que ça rejoint le projet du mouvement des communs de dire qu'il faut documenter. Il faut documenter, finalement, toutes les expériences concrètes qu'on met sous le parapluie commun, mouvement des communs. Alors ça, je pense que... je ne sais pas... Évidemment, il y a toutes les pistes... Pour développer sur la question de l'hacking, tu sais, il y a toutes les pistes qu'on a connues avec le mouvement Anonymous et puis le mouvement Wikileaks. Évidemment qu'Assange nous pose des problèmes ces années-ci. Là. Mais il y a quelque chose en arrière. Tu sais. Et probablement le mouvement de l'Open. Probablement le mouvement de l'Open qui contient des valeurs pour repenser la démocratie. Oui, ça serait comme a priori, là, ce qui deviendrait.
Oui, ça parle, enfin.
Oui, enfin vous. Si vous n'avez pas oublié votre question.
Oui, c'est assez technique, je ne suis pas sûre de la comprendre moi-même, mais je vais la poser quand même. Ouais. Elle concerne la nature du capitalisme.
Oui.
Serait en quelque sorte le support d'une nouvelle création de valeur où vous avez dit c'est pas l'expression exacte mais c'est
les données sur les usages qui sont à la source de
une nouvelle création de valeur. Alors, j'avais en tête que le processus de financiarisation, ou ce qu'on appelle le capitalisme financier, c'est précisément un capitalisme qui n'a plus besoin de ce genre de support pour création de valeur, puisque le seul support de la création de valeur dans le capitalisme financier serait l'argent. Donc, je me demandais si vous entendez cette création de la valeur par ce type d'activité comme une bonne nouvelle, finalement, qui serait comme une espèce de frein à la financiarisation, puisque ça serait en quelque sorte un transfert depuis la production par l'industrie à une production d'un autre genre. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous situez cela dans la financiarisation?
D'accord. Mais c'est-à-dire que quand on pense, je dirais, aux mutations du capitalisme, c'est qu'en réalité, on peut penser, je dirais, à plusieurs facettes de mutation. Tu sais, dans le fond, le capitalisme se mue en quelque chose d'autre, là. Enfin, c'est la loi du capitalisme, dans le fond. Le capitalisme, depuis le début, comme dit Boltanski, il intègre ses critiques. Tu sais, dans le fond, si on fait une critique du capitalisme, bon, le capitalisme... Il change de nouveaux habits et puis finalement, il continue, etc. Bon, il y a Attali qui avait développé des thèses là-dessus sur une sorte de phase. Et donc, je dirais, quand je pense à la question de la mutation du capitalisme ou des mutations du capitalisme, en réalité, je me dis, il faut porter la lentille vers différentes facettes. Alors, il y a une des facettes qui est celle de la financiarisation et qui s'exprime évidemment par, je dirais, des malheurs au niveau des entreprises qui sont obligées de se délocaliser et qui entraînent finalement beaucoup de gens à perdre leur emploi parce qu'ils ne veulent pas déménager en Roumanie, etc. Donc il y a vraiment une dimension, vous êtes humaine, c'est ça, non? Donc, je le sentais, là. Et donc, il y a cette première facette. Alors, moi, j'ai voulu aujourd'hui mettre en évidence une autre facette, pour résumer, qui serait comme le capitalisme numérique, donc la dimension de numérisation. On pourrait... À certains moments, disons, il y a 20 ans, il y avait énormément de bouquins qui sortaient sur la mondialisation. Donc, c'était la nouvelle vague de mondialisation. Et là, certains nous rappelaient, non, Braudel a parlé de mondialisation au siècle dernier, etc. Oui, mais là, c'est une nouvelle mondialisation, etc. Bon. Alors, c'est aussi une autre facette, finalement, de la transformation du capitalisme, parce que avec la naissance de marchés globaux, de division du marché. On parlait du Brésil, donc il y a des parties du Brésil qui vivent complètement dans le marché global à l'American Way of Life, et puis d'autres parties qui sont complètement dans le prolétariat, etc. Bon. Alors, je pense qu'on a plusieurs facettes, et j'ai pas listé le nombre de facettes, là, mais il y a plusieurs facettes, et votre question met en évidence le fait qu'il peut y avoir des enchevêtrements ou des contradictions entre certaines de ces facettes. Donc je pense qu'effectivement, quand vous décrivez ce que vous décrivez, c'est-à-dire, vous dites, dans le fond, si on pense en termes de financiarisation, c'est comme si maintenant, on n'a que besoin du capital, finalement, pour le faire fonctionner, ce capitalisme-là. Mais si on introduit les dimensions que j'ai introduites aujourd'hui, on s'aperçoit que, disons, dans la production de la valeur, le vieux modèle de Marx, c'était du travail et du capital. Et puis, bon, avec la financiarisation, ça a gonflé le capital. Mais là, c'est comme s'il y a quelque chose d'autre qui relève peut-être du travail ultimement, quand on parle de la catégorie digital labor, mais qui n'est plus le travail comme avant. Donc, on dirait qu'il y aurait, comme... Si je faisais un schéma, là, il y aurait comme trois entrées. Il y aurait le capital... Et puis le capital, il y aurait une transformation de la nature du capital. Quand on parle de capital cognitif, ça veut dire qu'on va chercher la dimension cognitive des travailleurs. Donc, quand Gorz parle du travail immatériel, Gorz ne parle pas du travail qui serait comme qui serait dans l'ordre de la virtualité au sens des technologies, là, pas au sens philosophique. Mais il parle d'un travail que le... Alors, juste pour distinguer, on va parler de l'employé, mettons. Là. Donc, l'employé, un travail que l'employé doit offrir à son employeur et qui est au-delà de, je dirais, de la tâche qu'il doit accomplir. Donc, par exemple, de plus en plus, quand on veut être engagé dans une boîte, et ça, je m'adresse aux jeunes, etc., il faut, à un moment donné, si vous avez des talents en guitare ou si vous avez des talents à réseauter, eh bien, il faut les faire valoir. Parce qu'à un moment donné, l'employeur, il est devant tellement de demandeurs d'emploi qu'il va choisir celui qui non seulement a la capacité à remplir la tâche, mais qui a également d'autres choses, ce que Gorz appelait le travail immatériel, d'autres choses qui participent à la création de la valeur, qui sont en fait les capacités de réseautage, qui sont les capacités finalement de... oui?
On a une question. L'étudiant Twitter qui a une question.
Ah, donc je m'arrête. Oui, voilà.
En fait, on a parlé de quelle capacité, comment on pouvait agir, comment on pouvait lutter. Mais en tant qu'étudiante, je me rends compte que tant qu'on n'est pas parti dans l'enseignement supérieur, au collège, au lycée, on ne parle pas de culture numérique, en fait. Donc, comment faire? Est-ce qu'il faut instaurer des nouvelles matières au collège et au lycée pour que les jeunes soient en capacité de comprendre ce terme et justement d'agir face à tout ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain sur Internet?
Alors donc, donc vous soulevez une question très importante qui pour moi renvoie finalement à c'est quoi les contenus éducatifs qu'on doit inventer au temps du numérique? Tu sais, pour moi, c'est une question capitale. Et c'est une question qui est extrêmement difficile parce qu'il y a tellement de mouvances. Ça bouge tellement vite qu'on n'est pas capable d'imaginer les compétences nécessaires à faire apprendre, si je peux m'exprimer ainsi, aux jeunes pour qu'ils puissent bien s'insérer dans la société qui vient. Donc c'est un défi, c'est vraiment un défi parce que je participais à un colloque récemment là, sur l'avenir du travail et puis c'est très compliqué là, ce qui s'en vient. Il y a des scénarios qui vont dans tous les sens. C'est comme si on va avoir besoin de travail qualifié, mais il y a aussi tout le travail non qualifié lié au service, etc. Donc c'est... On dirait qu'on s'en va vers un accroissement des inégalités qui nous pend au bout du nez. Là, donc, c'est une question très pertinente et auquel, peut-être qu'en groupe, on pourrait tenter de répondre à ça, mais je ne suis pas capable. Simplement, je la recadre un peu en disant, en fait, finalement, il faut agir sur la définition des programmes déjà dans les universités, les lycées, et comme vous dites, on ne parle même pas de culture numérique. Donc il faudrait au moins qu'il y ait, je dirais, de l'éducation critique au monde numérique au niveau des écoles. Là,
une dernière question.
Oui, d'abord, je vous remercie de votre présence. Et merci de votre présentation. Moi, je voulais juste, pour un peu compléter le tableau, est-ce qu'on peut parler aussi de la santé numérique?
De la quoi?
De la santé. De la santé. Parce que quand on parle, par exemple, du nouveau contrôle social, vous avez parlé aussi de la sécurité du monde économique. Quand vous disiez de l'accroissement de la sécurité, ça veut dire au nom de votre sécurité, on va vous contrôler. Bah, pareil pour la médecine, au nom de votre santé, on va mieux vous surveiller. Et je pense au quantify itself, la quantification de soi et les sites sont vraiment parlants. Enfin, c'est flagrant. Le site, par exemple, qui s'appelle je-me-surveille.com. Je me surveille, mais on surveille ma surveillance.
Oui, j'aurais dû introduire l'auto-surveillance aussi dans la typologie. Ouais.
Et justement, est-ce que la mutualisation des données, est-ce que ça peut aussi être un symptôme de ce nouveau contrôle social et de ce nouveau capitalisme numérique? Ça veut dire la prise en charge, ça ne concerne pas simplement notre profil Facebook, c'est aussi la M-Santé, toutes les applications maintenant qui sont en train de se proliférer par Google, dans les smartphones. Je veux dire, on calcule notre pas, mais ça ne doit pas nous étonner s'il y a des publicités ciblées. Est-ce que tout ça, ça ne doit pas être appréhendé dans une logique un peu globale? Et voilà.
D'accord. Je pourrais répondre très longuement à votre question. Je sens qu'il faut que je me restreigne, mais simplement, je vais pointer sur un mot que vous avez mentionné dans votre question, qui est celui de « quantified self ». Et donc, je m'intéresse particulièrement à ça parce que je fais partie d'un groupe où on lance une recherche sur 4 ans sur le quantified self. Et effectivement, ce qui est absolument fascinant au niveau de, je dirais, de ce que les Américains appellent aussi self-tracking, dans le fond, c'est, tu sais, dans le fond, on s'auto-surveille, on produit des statistiques sur nous-mêmes. Et c'est nous qui sommes le producteur de statistiques sur nous-mêmes. Et il y a un mouvement aux États-Unis qui s'appelle le quantified self. C'est un mouvement, un peu comme les alcooliques anonymes. Et donc, si vous voulez, je veux perdre du poids, et puis j'ai mon truc, je me surveille, etc. Et là, je participe à des groupes où les gens disent « Montre-moi tes statistiques, etc. Oui, c'est bien, tu pourrais faire mieux, etc. » Donc, on est dans un phénomène de transmission des données que les individus ont produites sur eux-mêmes. On les transmet à des camarades. Et à un moment donné, comme c'est en ligne, les compagnies d'assurance réussissent à capter ça. Et là, on arrive à la modulation des prix des assurances en fonction de votre état de santé. Je vais m'arrêter là parce que là, mais merci de votre question. Écoutez, j'avais jamais réfléchi. Je connais les catégorisations de Bourdieu, mais j'avais pas fait le. Mais merci de me faire la connexion. Maintenant, est-ce que je peux dire quelque chose d'autre là-dessus? C'est parce que les deux, Bourdieu et Mouillé-Boutan, sont quand même des gens qui sont franchement dans la résistance. En fait, ils essaient de. Et, non, mais je vais réfléchir. Je
pas mal. Merci de ton
intervention. Merci.